Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui doit être rendu le verdict que l'on annonce final à propos de l'affaire Vincent Lambert. La France glissera-t-elle vers la légalisation de l'euthanasie ? Une partie des chrétiens retiennent leur souffle, l'occasion de s'arrêter à nouveau sur la révision des lois de bioéthique qui doit être présentée en Conseil des ministres le 26 juillet prochain. Mais l'actualité dans le monde et en France, c'est aussi, entre autres sujets, les menaces de guerre entre l'Iran et les États-Unis, après quelques incidents graves dans le golfe Persique, ou la prochaine crise financière que l'on annonce pour 2020 et qui pourrait être pire que celle de 2018. Bref, de quoi bien dormir. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec, pour cette dernière émission de l'année, deux hommes en plateau. Voilà, les dames nous ont fait défaut, mais on ne se plaindra pas de votre présence. Bruno Cyr, vous êtes professeur d'économie et président honoraire de l'Université Toulousain Capitole. Bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain et professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être fidèle au rendez-vous en particulièrement cette dernière émission de l'année, cette journée plus que chaude. Mais petit secret de fabrique, nous avons la climatisation, donc vous n'avez aucune raison de ne pas être aussi percutant que d'habitude. On va commencer par l'Iran. L'Iran, voilà, comme toujours, certains suivent peut-être ça pied à pied et d'autres beaucoup moins. Alors on commence par faire un peu de pédagogie. Le 20 mai dernier, 4 pétroliers ont été endommagés et sabotés donc dans le golfe Persique, ou plus exactement dans le détroit d'Ormuz. C'est entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, donc au Moyen-Orient. Le 13 juin dernier, un certain nombre de pétroliers ont appelé des émis en détresse, et le 20 juin, un drone des États-Unis, un drone de surveillance a été abattu et s'en est suivi donc une escalade entre les États-Unis et l'Amérique, entre Donald Trump et la République islamique, et d'aucuns parlent de possible guerre. Alors pour poser le décor, on va dire que ça suffit peut-être. Ça ne date pas d'hier, les menaces de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Cette fois, est-ce plus sérieux que d'habitude, Bruno Cyr?
Je crois que ça a toujours été sérieux. Ce qu'il y a de plus, peut-être, de différent et de plus inquiétant par rapport à d'autres situations, c'est l'escalade un peu verbale et relativement imprévisible du président américain Donald Trump. Ça, c'est un contexte nouveau par rapport à ses prédécesseurs, qui effectivement est un sujet d'inquiétude. Bon, ceci étant, personnellement, je ne crois pas trop qu'il y a un risque de dérive sur une guerre au sens grave du terme, c'est-à-dire qui dégénérerait en conflit régional et potentiellement mondial. Ça, je n'y crois pas trop. Je crois qu'il peut y avoir des ripostes américaines. Finalement, Donald Trump, comme souvent, agite beaucoup les bras, mais est beaucoup plus mesuré dans les réponses effectives qu'il fait. Et si on nous dit ce qui est peut-être vrai, et qui est peut-être aussi de l'intoxication, qu'à 10 minutes de lancer une riposte sur cette attaque des pétroliers faite par l'Iran, selon toute vraisemblance.
Affirmée par la République islamique et
oui,
affirmée aussi par les Russes.
Bien sûr, mais le fait est qu'il y a quand même eu une attaque dans un endroit où les Iraniens ont quand même un contrôle assez étroit des mers, et puis il y a eu l'attaque aussi du drone américain sur l'espace aérien iranien, selon les Iraniens, et sur les espaces internationaux. Bon, mais enfin, les guerres, ça démarre toujours comme ça, avec des gens qui disent l'un une chose et l'autre son contraire. Bon, n'empêche que la tension est montée d'un cran, c'est vrai.
Juste une fois les choses posées comme ça, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, réexpliquer en fait les raisons de cette escalade et ce que l'une de l'autre de ces puissances se reprochent mutuellement?
Alors, les raisons de cette escalade sont simples et sont assez fondées, finalement. Les Iraniens souhaitent depuis longtemps se doter de l'arme nucléaire. Et évidemment, pour la paix dans la région, et notamment si on se place du point de vue israélien, ça serait une menace assez insupportable, extrêmement dangereuse en tout cas.
Puisque l'Iran est un des ennemis jurés de l'Iran.
Voilà, l'Iran d'Israël. L'Iran a toujours juré la mort d'Israël, ou la disparition. Donc évidemment, avoir une bombe atomique détenue par des gens qui vous sont extrêmement hostiles à un jet de pierre, ça ne fait plaisir à personne. Donc les Américains, évidemment, défendent la position israélienne là-dessus et avec tous leurs alliés de l'OTAN, se sont débrouillés pour rentrer dans un accord il y a quelques années.
L'accord de Vienne, donc 2015.
L'accord de Vienne en 2015.
5 plus 1, c'est-à-dire en fait les membres du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne.
Voilà, et donc pour limiter les engagements iraniens qui, en contrepartie, s'engageaient donc à ne pas développer l'arme atomique. Bon. Là-dessus, Donald Trump a déclaré que l'Iran ne respectait pas. Il avait sans doute de bonnes informations parce que les services secrets américains et israéliens sont quand même extrêmement efficaces et performants. Donc ils avaient de bonnes raisons sans doute pour dénoncer cet accord. Mais depuis que cet accord est dénoncé, on est un peu dans une impasse. Et évidemment, l'Iran a des soutiens et a deux soutiens de poids, les Russes, et on vient de le voir au sujet de la prise de position là, sur les pétroliers, mais aussi la Chine.
La Chine. Bon.
Donc on se retrouve dans un jeu qui dépasse de très largement le cadre strictement iranien. Et c'est pour ça que moi je suis relativement optimiste, parce que je pense qu'au fond, personne n'a intérêt vraiment à rentrer en conflit. S'il se dit que de taper sur ou de faire une riposte sur l'Iran amène dans le jeu contre soi la Chine, qui est déjà en guerre commerciale, et la Russie, qui est potentiellement du même bord, je pense que les Américains vont réfléchir à deux fois. Donc, voilà.
Emmanuel Perrier, juste j'ajoute un élément d'actualité. Donc le 23 juin dernier, lors d'une session plénière du Parlement iranien, les députés iraniens ont scandé « Mort à l'Amérique, mort à l'Amérique ». Ça rappelle des souvenirs à certains, à l'époque où on voyait souvent des drapeaux américains qui brûlaient.
Oui, mais ça, ce sont les gesticulations d'usage. Faut entretenir la flamme, si je puis dire, alors même que l'Iran est profondément divisé sur la légitimité du pouvoir islamique.
Expliquez un tout petit peu ça, pour ceux qui ne sont pas aussi avertis que vous.
Bah, c'est-à-dire que
les différentes franges à l'intérieur de la société iranienne.
L'Iran, c'est une culture qui a 4000 ans. Et là-dessus se greffe un islam chiite qui, contrairement à notamment dans les pays du domaine sunnite, un islam chiite qui s'est beaucoup mélangé, qui a été beaucoup mitigé par cette longue culture, cette longue histoire de la Perse. Et de sorte que en Iran, l'islam n'est pas du tout culturellement n'a pas du tout le même statut, il n'a pas effacé les cultures antérieures, il n'a pas effacé ce qui existait, la grande culture perse. De sorte que il y a dans la révolution islamique qui s'est installée en 1979, c'est ça, 79, je crois.
C'est ça. Ouais.
Il y a une ambivalence du pays, c'est-à-dire que d'un côté, c'est un pays qui s'appuie sur une très grande histoire. Par exemple, le fait d'avoir la bombe atomique, c'est pas d'abord une requête musulmane, c'est d'abord la requête d'une puissance qui a le souvenir d'avoir été un empire, qui a le souvenir d'avoir été le centre d'une région, centre politique, géostratégique d'une région. Et qui a comme ambition de garder cette centralité. Face à un Israël, évidemment, il y a une montée aux extrêmes du point de vue de l'opposition, du fondamentalisme islamique, et qui donc va chercher à en rajouter. Mais je crois, le fond, c'est qu'il y a une société qui est profondément divisée entre, d'une part, des aspirations à une certaine développement économique, politique, stratégique, une grande culture derrière, il y a des intellectuels, il y a des gens, voilà, il y a toute une société qui est éduquée, Et puis, il y a toute une part aussi de cette société qui est derrière le pouvoir islamique. Et
donc, avec souvent une différence ville-campagne, comme dans d'autres
avec
pays
en partie une différence ville-campagne. En partie seulement, mais en partie quand même. Et ce qui donne à ce pouvoir, ce pouvoir est obligé, par exemple, de contrôler l'information, est obligé de contrôler les personnes. Il exerce une certaine dictature au quotidien, pas trop forte, mais quand même, pour les témoignages que j'en ai eus, si vous dites un mot de travers à la mauvaise personne, vous pouvez vous retrouver en prison. Donc, il y a un pouvoir qui est quand même sur la défensive, qui essaye de se défendre de manière violente.
Alors ça, c'est pour poser le décor.
C'est pour poser le décor.
Que peut-on dire de cette méthode de Donald Trump d'aller chercher un nouvel accord sur le nucléaire iranien? D'aucuns parlent de son livre, là, The Heart of the Deal, disant que sa méthode à lui, c'est d'être violent, de gonfler le torse, de terroriser l'adversaire, et puis après, d'aller à la table des négociations.
C'est un promoteur immobilier, donc un promoteur immobilier avec toute la... on ne va pas dire de méchanceté, il y a sans doute quelques personnes qui font de la promotion immobilière qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est un milieu du bâtiment, c'est un peu... rude et c'est viril. Hein. Et on n'est pas dans les grandes diplomaties byzantines ou florentines. Et donc, mais je dirais, moi, ce qui me frappe dans cette évolution, c'est que, en fait, on a de très nombreux facteurs qui viennent se conjuguer. C'est ça ce qui, à mon avis, rend la situation dangereuse. Le fait qu'on arrive à, par exemple, à un drone abattu avec, paraît-il, un avion qu'il dirigeait, ou en tout cas qu'il suivait, qui était juste derrière, mais qui lui était piloté par des hommes. Donc ça aurait pu, il y aurait pu y avoir ce deuxième avion abattu, auquel cas il y aurait eu vraiment un fait de guerre. On aurait pu aller vers c'est dangereux, c'est très dangereux. Et il me semble que c'est dangereux parce que du côté iranien, il y a la vive conscience que l'Irak a été détruit, la Syrie a été détruite, et qu'ils sont les prochains sur la liste. Et que dans ces prochains sur la liste, il y a Israël, évidemment, mais Israël, c'est même encore un autre problème. Il y a les pays du Golfe, qui ont eux-mêmes des intérêts, et qui, notamment l'Arabie Saoudite, qui voudraient jouer le rôle stratégique pour le Moyen-Orient.
Donc les prochains sur la liste, c'est l'Iran et Israël et d'autres pays du Moyen-Orient, ils seraient favorables, c'est ça que vous voulez dire?
C'est-à-dire que... exactement. Donc, il y a plusieurs pays qui ont intérêt à ce que ça se passe mal avec l'Iran. Bien. Et qui ont intérêt à ce qu'il y ait des débordements, à ce qu'il y ait des provocations qui dégénèrent et qui conduisent à une guerre.
On dit que les États-Unis cherchent un renversement de régime.
Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, était prévu dans les années 90, notamment les grands projets géostratégiques sur, notamment Brzezinski et d'autres penseurs de la géostratégie du Moyen-Orient, pour qui le but, c'était de diviser et de toutes ces entités pour empêcher la constitution d'une force politique importante au Moyen-Orient. Et... d'autre part, il y a un problème aussi du côté américain. Moi, un aspect qui me frappe, c'est que à cause de la guerre que lui ont fait les démocrates au début de son mandat, Trump a été obligé dans le premier budget d'acheter la docilité du complexe militaro-industriel américain. Il a, je ne sais plus combien, mais c'est en milliards de c'est en centaines de milliards de dollars de budget de défense qui ont été augmentés pour pouvoir avoir un allié ici, puisqu'il n'avait aucun autre allié. Donc il a acheté un allié avec le complexe militaro-industriel. Le problème, c'est que quand vous avez un complexe militaro-industriel qui est énorme, que vous avez des centaines de bases dans le monde, que vous avez des agences à tout bout de champ, à la fois elles servent les États-Unis, mais en même temps elles ont aussi leurs intérêts, elles ont aussi leur propre politique, elles ont aussi le fait d'avoir des guerres. C'est, je dirais, quand vous avez un gros appareil militaire, il faut s'en servir, hein. Et on a bien vu que ces derniers temps, il y a eu une ouverture vers le Venezuela, il y a eu une ouverture vers l'Iran, et donc moi je crois il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un danger à ce que on laisse des escalades comme ça se faire, parce que il y a tellement d'intérêts en jeu, tellement de c'est tellement complexe comme région que ça peut très facilement exploser.
Bruno, si vous voulez intervenir, moi j'aurais une relance si je peux me permettre. Après, oui. Vous ferez deux en un si vous le souhaitez. Et l'Europe dans tout ça, se dit-on. Et derrière, oui, il y a une autre question, c'est qu'on se demande en fait si Donald Trump avait des raisons valables de vouloir sortir de cet accord, si les Européens sont naïfs. On a dit que l'agence, je ne retrouve plus son nom, l'AIE, l'agence de surveillance, on va dire, de la communauté internationale sur le nucléaire, disait qu'il n'y avait pas de débordement. Et Donald Trump dit que oui, il voudrait, on va dire, que les mesures soient encore plus limitées dans le fond ou encore plus fermes. On ne sait pas trop quoi penser, nous, vu de loin, l'impression que c'est parole contre parole.
Oui, mais je pense qu'en fait, il y a une partie qui est beaucoup plus une espèce de poker mondial qui se joue autour de l'Iran, en réalité. Sur le plan stratégique. Et je ne suis pas sûr, mais ni dans un sens ni dans l'autre, que les États-Unis jouent les bonnes cartes. Mais peut-être je me trompe. Ce qui est sûr, c'est que la véritable guerre, entre guillemets, qui a démarré, c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis. Là, il faut être clair. Et d'ailleurs, ça a été prédit par René Girard. C'est ça qui est extraordinaire dans ses écrits. René Girard, dans Le désir mimétique, finit par conclure que, inévitablement, quand vous avez une puissance émergente et une puissance dominante, le désir mimétique fait qu'à un moment donné, l'émergent va vouloir prendre la place du dominant et donc va s'attaquer au dominant. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité.
Je rappelle que la Chine, c'est le premier exportateur en Iran aujourd'hui.
Oui, donc, ce qui joue là-dedans, en réalité, c'est une espèce de poker où chacun va compter ses pions. Et ce que ne veut pas, je pense, les États-Unis, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la Chine étende trop son empire. Donc là, malheureusement, j'ai peur qu'ils arrivent à l'effet contraire de ce qu'ils veulent. Parce que dans cette histoire, Trump a dit, toutes les grandes firmes internationales qui font du commerce avec l'Iran seront bannies des États-Unis. En gros, bon, on va les empêcher d'exporter vers les États-Unis. Alors évidemment, ça a calmé beaucoup d'entreprises européennes qui en font les frais, comme Total et comme d'autres qui, effectivement, se sont retirées de leurs activités iraniennes. Mais il y en a qui, eux, n'en ont rien à faire. Ce sont les Chinois qui ont dit aux Américains, écoutez, votre interdiction, nous, on n'en a rien à faire. Et ils sont en train de placer leur pion en Iran. Parce que nous avons laissé les places libres. Donc, la Russie est en train d'essayer de jouer le même jeu, mais avec des arguments moindres, je dirais. Donc la Chine est en train d'avancer ses pions. Et dans cette guerre entre Chine et les États-Unis, cette guerre commerciale, je pense qu'ils vont se débrouiller pour qu'il n'y ait pas un conflit là, parce que la situation n'est pas que l'Iran veut prendre la place des États-Unis. Donc s'il y avait un conflit purement Iran-États-Unis, ça irait pas très loin. Ça dépasserait pas ce que ça a fait dans le cadre de l'Irak ou de la Syrie ou d'autres. Mais
en revanche, c'est déjà pas mal, si je peux me permettre.
Pas mal, mais je veux dire, ça dérivera jamais sur une guerre mondiale. Mais en revanche, si on met la Chine dans le jeu, là, ça devient beaucoup plus explosif sur des choses qui sont extrêmement tendues. Parce que, alors, la Chine n'a pas que des atouts dans sa manche, parce qu'elle est partie un peu tôt, de mon point de vue, et technologiquement, elle n'est pas au niveau, et on le voit bien avec l'histoire de Huawei, c'est-à-dire que les Américains ont encore des moyens de pression puissants sur la Chine.
Huawei, c'est le téléphone mobile.
Voilà, donc je pense que tout ça va calmer un peu le jeu. Mais la situation explosive que je vois, moi, c'est une puissance émergente qui n'a rien à voir avec les périodes de la guerre froide où la Russie était une puissance déclinante. Là, la Chine est une véritable puissance émergente sur tous les plans, à la fois scientifiques, industriels, économiques, financiers, etc. Donc, effectivement, à un moment donné, on va demander à l'Europe L'un et l'autre vont demander à l'Europe de choisir leur camp. Et c'est ça qui pose un grave problème à l'Europe. Avec qui jouez-vous ? Et on voit bien que les Chinois sont en train de placer leurs pieds en Europe avec les fameuses routes de la soie, en essayant de ramener aussi une partie du camp européen vers eux. Donc on est pris dans un jeu de poker, et je pense que l'Europe, malheureusement, là-dedans, c'est un peu le dindon de la farce, ça risque d'être le dindon de la farce.
On fait une première pause et on vous retrouve pour parler de la révision des lois de bioéthique.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, autour du plateau Bruno Cyr, professeur d'économie, président honoraire de l'université Toulousain Capitole, et Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain et professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse. Bioéthique, je le disais, même si je vous propose de ne pas nous arrêter là-dessus, il y a une actualité bioéthique importante, je vais donner deux précisions un tout petit peu plus à nos auditeurs. Aujourd'hui, la Cour de cassation doit se prononcer en France donc sur sur la situation de Vincent Lambert, donc cet homme en état possirrelationnel qui devrait être peut-être euthanasié, puisque le 20 mai dernier, les médecins avaient décidé l'arrêt de la nutrition et l'hydratation artificielle de cet homme. Et je le disais en introduction, les chrétiens retiennent leur souffle, mais pas tous les chrétiens. J'ai trouvé dans un article de Réforme, on lui vole une fin de vie digne, dit Réforme. Bref, ça fera un sujet de discussion une prochaine fois. Je voulais qu'on revienne surtout sur la, quitte à l'inclure dedans, hein, mais sur les résultats, ce qui va être proposé en fait en Conseil des ministres fin juillet, du projet de loi, puisque maintenant on le connaît dans le détail, ces 32 articles sont tombés. Difficile de tout résumer, mais je vais m'y essayer. Ouverture donc de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, suppression du critère médical d'infertilité, y compris pour les couples hommes-femmes qui pourront donc décider d'accéder à la PMA sur demande, remise en cause du droit de la filiation en France, puisqu'aujourd'hui ce serait, on pourrait devenir parent par une déclaration anticipée de volonté, levée de l'anonymat sur les dons de gamètes, puisque pour faire des enfants, bah, il faut du sperme et des ovules. Voilà, jusque-là c'était donc des dons anonymes, et là ça serait levé. Et si on devait rajouter un sujet, ô combien important pour les chrétiens. On a fait une émission récemment, c'est donc la recherche sur l'embryon qui, grosso modo, va être libéralisée, même si aujourd'hui, cette recherche ne serait que sur les fameuses cellules souches embryonnaires et pas directement sur les embryons. On va en parler. Bruno Cyr, quel est votre sentiment en cette veille d'été? Et on va dire, quant au climat qui risque d'être celui de la France à l'automne prochain.
Eh bien, malheureusement, je dirais, ce que l'on sentait venir arrive. Et d'ailleurs, c'était une promesse de campagne du président Macron. Cette loi sur la bioéthique va...
Pas sur tous les sujets. Il avait promis la PMA pour les couples de femmes, mais voilà. Il n'avait pas parlé du reste.
Il n'avait pas parlé du reste, mais cette loi pour la bioéthique est maintenant là. La PMA va être une réalité dans notre pays. Et c'est vrai que c'est quand même pour des chrétiens comme moi et qui ont des convictions, je trouve que là on franchit un pas qui est quand même extrêmement dangereux. Donc, quelle est ma position personnelle sur cette question? C'est de dire bon, ben, dont acte, c'est comme ça, on va pas refaire des combats...
Vous voulez dire c'est plié, c'est ça?
Ah, ben, c'est plié, ça va être voté, et c'est comme ça. Donc, par rapport à cette question, notre seul combat aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre les gens qu'il ne faut pas le faire. C'est pas parce qu'une loi nous permet de faire des choses qu'on est obligé de les faire. Je crois qu'on a un besoin de conviction, de dire ce qu'est une famille, ce dont a besoin un enfant, et dans quel cadre il doit être conçu et élevé. Et je crois que c'est ces convictions-là qu'il faut répandre autour de nous pour dissuader les gens d'ouvrir à une possibilité que va avoir la loi. Je crois que là...
Donc une mobilisation, on va dire, dans le one-to-one, comme on dit, mais pas,
oui.
Pas de mobilisation politique collective. Vous n'y croyez pas, en fait.
Ben, je crois que c'est perdu. Moi, j'avais dit lors d'un précédent débat qu'il fallait profiter de la vague des Gilets jaunes pour essayer d'influencer pour que cette loi n'ait pas lieu. Mais bon... tout le mouvement d'opinion des Gilets jaunes et tout ce qui est remonté n'a pas fait de ce point un point marquant pour le président de la République, en tout cas ne l'a pas dissuadé de mettre cette loi. Il avait dit qu'elle serait votée avant l'été. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, elle va être votée. Bon, donc, bon, je veux bien qu'on aille manifester tous en cœur, mais je crois que ce sont des combats d'arrière-garde. Donc, notre pouvoir maintenant, c'est de dire, eh bien, rendez-vous compte de ce que vous faites, et peut-être qu'il y a une loi qui vous permet de faire ça, mais danger, faites attention, on ne joue pas avec les enfants, la vie humaine. Et là, on est en train de jouer aux apprentis sorciers avec la vie humaine. Moi, c'est ce qui me terrifie un petit peu.
Voilà. Emmanuel Perrier, est-ce qu'il y a une forme de dictature de la pensée sur ces sujets? Est-ce que bientôt, on pourra, en fait, ne serait-ce qu'à titre privé, émettre des réserves comme ça? Alors, on va dire que là, ce n'était pas à titre privé, mais entre autres, il y a eu la fameuse exclusion d'Agnès Thiel, qui, dans La République en marche, a eu le malheur d'avoir des propos répétés contre la PMA, justifiant ses positions. Est-ce que vous avez l'impression d'une espèce un grand nuage idéologique qui s'abat sur la France?
Alors, grand nuage idéologique, oui, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les atteintes aux libertés publiques qui se multiplient. Que ce soit les intimidations de journalistes, que ce soit la manière dont les arrestations, les inculpations de Gilets jaunes ont été faites, que ce soit avec atteinte au droit de la défense caractérisée, ou au droit de manifester, atteinte à la liberté d'expression au travers de la proposition de loi Avia qui a été présentée, la proposition de faire un ordre des journalistes, c'est-à-dire en gros hein, de museler la profession. Enfin bref, ça fait beaucoup. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tout simplement, on a eu, et ça doit peut-être, j'espère que ça servira d'exemple, on a eu un soi-disant grand débat sur la bioéthique. Vous vous souvenez?
Les fameux états généraux de la bioéthique.
Voilà. Et parce que ça a été éclipsé par le nouveau grand débat, un grand débat national, donc, mais où on est dans la pratique managériale, c'est-à-dire que quand vous avez un problème et que vous avez peur qu'une réforme ne passe pas, vous commencez par faire une grande discussion, etc. Puis une fois que la discussion est finie, vous dites, bah maintenant, je vais faire passer ce que j'avais envie. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la bioéthique. Les états généraux, toutes les bonnes âmes ont participé en se disant, mais oui, c'est important, c'est bien de participer, il nous fait participer, il va tenir compte de nos opinions. Mais quand vous regardez les résultats du grand débat de bioéthique, il y avait une réticence majeure face à cette PMA.
Et l'argument du gouvernement, c'était de dire que ça a été d'une certaine manière noyauté par les chrétiens, en tout cas qu'ils étaient surreprésentés.
Oui, bien sûr. Et c'est quand même impressionnant. Et c'est la même chose pour le grand débat national. Ça sera la même chose pour toutes les autres derrière. Il y a une méthode qui me paraît vraiment inquiétante. Deuxièmement, du point de vue des pratiques démocratiques. La deuxième chose que ma remarque, alors, et je complète tout à fait ce que vient de dire Bruno Cyr, avec juste un petit point, c'est, ça y est, on ouvre enfin trois nouveaux marchés pour faire de la croissance. Hein. Donc il y a le marché de l'enfant. Donc maintenant, ça va être... Et ça, c'est un business très juteux.
Il faut expliquer un tout petit peu pourquoi. Parce qu'entre autres, comme on manque de donneurs sperme et d'ovocytes, de dons d'ovocytes, des gamètes aussi.
C'est pas seulement ça. C'est que la méthode normale pour faire des enfants ne coûte rien. C'est plutôt même un certain plaisir, en général, m'a-t-on dit. Mais en revanche... pour faire un enfant par PMA, je peux vous garantir qu'il y en a des dizaines de personnes qui doivent être mobilisées. Il y en a de la recherche qui doit être payée. Donc, ce sont des sommes fabuleuses qui s'ouvrent, des marchés fabuleux qui s'ouvrent. Tout ça pour produire de l'enfant. Hein? De la même façon, recherche sur l'embryon, l'utilisation...
En effet, vous dites recherche sur l'embryon, parce que certains font le distinguo embryon et cellules souches embryonnaires, mais évidemment, pour les chrétiens, il n'y a pas de...
Oui, enfin, bon, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est du matériel humain, hein, donc, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Là où vous avez des secteurs qui s'ouvrent, ça veut dire que vous avez une demande qui apparaît. Et quand vous avez une demande qui apparaît, il va falloir trouver l'offre. Et donc, il va y avoir, évidemment, de l'argent derrière, et puis il va y avoir la création d'une offre. Hein? Et donc, ce qui est incroyable, c'est cette extension indéfinie qui n'arrive plus à s'arrêter de la marchandisation de tout, de tout, de tout. Et pour rejoindre ce que disait Bruno Cyr, c'est la grande déception finalement, mais c'est encore un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt. La grande déception d'avoir vu les Gilets jaunes se concentrer exclusivement sur... La question, je dirais, de justice sociale du point de vue de la vie quotidienne. Et c'est vrai. Mais il faut bien se rendre compte que les deux questions sont liées. Elles ne sont qu'une seule et même question.
Justement, faut-il baisser les bras ? Ne va-t-il pas y avoir demain une vague de gilets roses ? Et est-ce que cette vague pourrait pas aussi toucher beaucoup plus largement que la précédente ? On va dire, on pense évidemment aux manifestations contre la loi Taubira, parce que le projet de loi étant très libéral, il y a aussi de plus en plus quand même de gens de bonne volonté, qui ne sont pas tous des chrétiens, même si c'était déjà le cas au moment de la loi Taubira, qui sont rendus fous par cette marchandisation du vivant. Je cite entre autres Sylviana Gasinski qui va sortir bientôt un ouvrage autour de ces thématiques, qui sur France Inter, c'était lundi dernier, avait cette phrase, entre autres, on a le droit à quelque chose, mais pas à quelqu'un. Elle était violemment indignée et elle disait, je crois, à un autre moment, même s'il faut passer pour un conservateur ou une réactionnaire, eh ben j'assume. Voilà, ça n'est pas l'idée que je me fais de l'homme.
Moi, c'est tout à fait mon...
Emmanuel Parrier.
C'est tout à fait mon point de vue. Il faut se battre sur le plan des idées, d'une part.
Je reprécise ma question. Est-ce qu'il peut y avoir une plus grande vague et est-ce qu'elle peut toucher aussi plus largement que la précédente ? Parce que là, vous avez l'air de baisser les bras.
Non, je ne baisse pas les bras. Je pense qu'il y a des leaders d'opinion. Si vous voulez. Moi, je n'ai jamais trop cru aux grandes manifestations sont souvent récupérées, manipulées, etc. Mais je pense qu'en revanche, par des leaders d'opinion, et Mme Magazinski en est un, il faut qu'on se fasse entendre pour dire stop, arrêtons la marchandisation du corps humain. Alors, il y a quand même sur cette question, heureusement pour nous en France, dans notre constitution, il y a l'interdiction de la marchandisation du corps humain, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et même dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Mais chez nous, il y a cette interdiction. Je pense que là, on a un angle d'attaque juridique. C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire stop au marché, comme vous le disiez, il ne faut pas dériver parce que ce n'est pas permis par notre constitution. Et donc je pense que notre angle d'attaque, il est à la fois sur le plan juridique où il faut se battre pour montrer qu'il y a une dérive sur ce plan qui est contre notre constitution, qui est quand même notre ciment collectif. Et la deuxième chose, c'est par des leaders d'opinion dire attention, danger, regardez ce que vous faites. Parce que je crois que c'est malheureusement... la loi est passée, les techniques sont connues, et donc, si vous voulez, c'est comme pour l'avortement, etc., ça va devenir un marché. Donc, il faut se battre sur le plan de l'éthique, de la morale, des idées, et je crois que c'est ça notre devoir.
Emmanuel Perrier, est-ce que vous croyez à une mobilisation plus large que la précédente ? Est-ce que il y aurait plus d'hommes, on va dire, et de femmes éclairées en France, prêts à se soulever face à cette libéralisation, marchandisation du vivant, comme vous dites.
Je peux pas vous répondre, je suis pas prophète, et je me souviens de la mobilisation pour la loi Taubira. Je me souviens qu'elle a été, elle s'est faite très, la manifestation contre la loi Taubira, elle s'est faite très rapidement. Parce qu'il y avait une espèce de sentiment d'urgence et de... Voilà. Donc ce sont des mouvements de foule qui peuvent prendre ou ne pas prendre. Bon, ça c'est une chose. Mais, en revanche, qu'est-ce que manifestent ces mouvements de foule ? Qu'il y en ait un ou pas, il y en a eu un contre la loi Taubira, il y en a eu un énorme, peut-être moins important sur les gilets jaunes, mais qui était aussi significatif de quelque chose de profond, qui est un malaise profond dans la société. La société ne va pas bien. Bien. À partir de là, et si les gens, les populations se mettent dans la rue, c'est parce qu'il y a un déficit de leurs représentants politiques qui ne prennent pas en compte, qui ne sentent pas le pouls, de telle sorte que là où il y a plus d'un million de personnes qui vont dans la rue, les hommes politiques ne se rendent pas compte, ils ont suivi, ils n'avaient pas conscience que c'était quelque chose d'important.
Mais c'est désigné comme marginal, c'est-à-dire en fait il y a une forme d'hypermobilisation des chrétiens qui sont...
Mais c'est pas des chrétiens seulement.
Une partie de la société française, en tout cas, c'est vu comme tel par les pouvoirs en place.
Mais de la même façon que... Oui, mais ça c'est faut pas se laisser avoir par cette réduction-là. Quand vous êtes à des élections où vous avez entre 40 et 50% de la population qui ne va plus voter, ça veut dire que ces 40 ou 50% de la population font partie de ceux qui disent « la politique ne peut plus rien m'apporter ». Hein? Donc ce sont ces personnes-là qui se découragent d'un avenir politique, qui accusent le coup d'une société qui se délite, qu'ils voient se déliter, et dans laquelle ils se disent visiblement, il n'y a rien à faire, personne n'en veut rien. Quand on manifeste, ça ne change rien. Il y a un découragement. Et ce découragement, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est celui qui fera le retour de bâton plus tard. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait des politiques qui sachent le canaliser, l'orienter, redonner à des populations qui n'ont plus du tout confiance une parole politique dans laquelle un peu de bon sens, et notamment de justice, parce qu'ici c'est de la justice, justice à l'égard des plus démunis de notre société, à l'égard de ceux qui se précarisent de plus en plus qui n'ont pas le choix. Hein. C'est pas comme M. Macron le croit, il suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi, hein, c'est pas vrai. Et puis, deuxièmement, injustice à l'égard des plus faibles, du plus petit enfant jusqu'au vieillard. Voilà. Et cette injustice-là, c'est celle qui fait les ressentiments les plus profonds dans les populations. Et moi, ce que je crains, c'est que s'il n'y a pas de transformation de ce sentiment profond d'injustice, de délitement de la société qui est pris en charge par le politique, eh bien, il y a un jour où ça va devenir méchant.
On fait une deuxième pause et puis on va parler donc autre sujet très réjouissant d'une possible nouvelle crise financière. Ça sera après cette pause musicale. Le grand débat, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Pour ceux qui nous rejoindraient, pour rappel, Bruno Cyr, professeur d'économie, président honoraire à l'université Toulousain Capitole. Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain et professeur de théologie au Studium des Dominicains. Alors pour nous remonter le moral, donc on va parler de la prochaine crise financière. Semble-t-il, c'est peut-être une habitude de certains économistes de parler de la prochaine crise, puisqu'elles sont cycliques. On se dit qu'il y en a forcément une qui arrive prochainement. Il paraît qu'elles arrivent tous les 10 ans. Bref, en tout cas, là, il y en a, semble-t-il, de plus en plus qui s'inquiètent. 10 ans, je vais essayer de résumer mon propos, que cette crise pourrait être encore plus grave que celle de 2008, que l'on compare quand même à la grande crise des années 30. En cause, et je vous lancerai de manière simple comme ça, et je vous laisserai compléter, vous qui êtes plus féru de ces questions, entre autres vous, Bruno Cyr, on dit que c'est une crise d'endettement des États, puisque, pour le rappeler et le faire de manière très, très schématique, pour sauver les banques lors de la crise de 2008, les États se sont endettés, on va dire, de manière massive, et aujourd'hui on arrive à des taux d'endettement qui sont vertigineux, entre autres on parle pour les États-Unis de plus de 100% du PIB. Voilà, courte introduction, je vous laisse compléter sur l'analyse, Bruno Cyr.
Alors, toujours difficile de faire la prévision, et les économistes ne sont pas, loin de là, les champions de la prévision. Pourquoi ? Parce que les économistes, ils essayent d'expliquer avec des méthodes scientifiques le réel, c'est-à-dire ce qui s'est passé et ce qui se passe à un moment donné. Mais on est dans des mondes extrêmement compliqués, donc la prévision, il y a tellement de facteurs. La prévision, c'est pire que pour la météo, c'est extrêmement difficile dès qu'on dépasse un horizon de quelques dizaines de mois.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme facteurs qui font qu'en ce moment on tremble et on parle de 2020
D'abord, il y a un premier facteur, c'est a priori, tout va bien. Donc c'est un peu paradoxal de parler de crise financière alors que la croissance aux États-Unis n'a jamais été aussi forte, elle est à plus de 3%. La croissance chinoise, on dit qu'elle ralentit, mais enfin, elle flirte avec les 8%. Et c'est quand même 1,3 milliard d'habitants de la planète qui sont dans une forte croissance. L'Europe, finalement, a une croissance qui n'est pas trop mauvaise. Donc, tout ça pourrait faire croire. Le chômage, c'est quand même beaucoup réduit dans les économies nord-américaines et même en Europe. La Chine est en pleine aussi chauffe économique. Donc, a priori, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Simplement, il y a des signaux qui alertent, c'est qu'on est dans une période où l'argent ne coûte plus rien. C'est-à-dire qu'effectivement...
Alors expliquez en deux mots, l'argent ne coûte plus rien parce que les banques centrales ont mis des taux d'intérêt très faibles et donc en gros, on peut avoir de l'argent pour pas grand-chose.
Aujourd'hui, tout nous pousse à nous endetter, que ce soit les particuliers et que ce soit les États. Tout nous pousse à nous endetter parce qu'effectivement, le poids de la dette est extrêmement faible. Il est situé entre 0 et 1%.
Donc c'est-à-dire qu'on rembourse avec un taux d'intérêt entre 0 et 1%
faible.
Sur la dette.
Voilà. Extrêmement faible. Par rapport à des périodes où on a connu des taux d'usure qui étaient... Un taux d'usure, on le définit comme à 20%. Ça veut dire qu'en 5 ans, vous aviez doublé le capital qu'on vous avait prêté. Il fallait rembourser le double. Là, quand vous êtes à 1%, c'est vrai que vous dites, je vais mettre 100 ans à payer le double de ce que emprunté, donc autant dire jamais. Donc c'est vrai que tout nous pousse à nous endetter, et c'est justement ça le problème. Et comme il n'y a pas d'inflation, on ne voit pas pourquoi les taux d'intérêt auraient à être manipulés. Le problème aujourd'hui, c'est d'assurer de l'emploi, d'assurer de la croissance, parce que je rappelle qu'il y a quand même une croissance démographique et qu'il y a une obligation de croissance économique pour accompagner cette croissance démographique, sinon il y aura des problèmes. Donc tout nous pousse à nous endetter. Et c'est vrai qu'il y a un surendettement, c'est-à-dire un excédent de liquidité.
Alors qu'est-ce qui peut se passer ? C'est-à-dire que demain, si l'inflation augmente, Eh ben, alors, on a des taux d'intérêt qui vont passer.
Qu'est-ce
si on augmente
qui peut se passer,
d'un
c'est
ou 2%,
si tout d'un
ça fait
coup,
des remboursements faramineux.
Si tout d'un coup, exactement ce que vous venez de dire, si tout d'un coup il y a une inflation qui repartait quelque part, on remonterait les taux d'intérêt et là, les gens ne seraient plus en mesure de rembourser parce qu'évidemment, les taux d'intérêt réels sur lesquels ils devraient agir n'auraient plus rien à voir avec les conditions précédentes. Donc,
les gens et les États.
Et les États.
Surtout les États, dit-on aujourd'hui.
Surtout les États, mais et avec une répercussion sur les individus, parce que les États émettent des emprunts auprès des entreprises et finalement de la société en général. Donc tout ça est un système lié dans lequel un surendettement du système est quelque chose de préoccupant. Alors, en plus de ça, je dirais, mais alors est-ce que c'est un facteur d'inquiétude supplémentaire ou pas ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais quand vous avez des entreprises comme Facebook qui se mettent à créer leur propre monnaie, ça rajoute dans le système de la complexité, si vous voulez. Et ça rajoute même beaucoup de complexité. Alors, la monnaie, la crypto-monnaie de Facebook, il faut comprendre que Facebook gère des masses qui équivalent à la plupart des États. Hein. C'est-à-dire que Facebook a des budgets qui sont supérieurs au budget de l'État français. Et donc, vous avez derrière Facebook tout un tas de grandes entreprises qui ont dit, ben, nous, on part avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation qu'on avait un peu connue finalement au Moyen-Âge, hein, où les grands barons, les grands possédants des domaines avaient leur propre monnaie, battaient monnaie parce qu'ils détenaient la richesse. Ben là, les grandes entreprises vont battre monnaie parce qu'ils détiennent la richesse. Mais en faisant cela, ils échappent à tout contrôle des banques centrales. Et donc, effectivement, ça rajoute de l'inquiétude parce qu'on se dit, qu'est-ce que vont rajouter dans le système ces monnaies-là ? Donc, Il y a une inquiétude. Est-ce que ça arrive, cette crise sera pire que celle de 2008 et sera en 2019, 2020 ou 2021 ? Ça me paraît un peu hasardeux de dire ça. Mais il y a un certain nombre de sujets autour de l'endettement et du développement de nouvelles monnaies sans contrôle.
En tout cas, il y a un certain Georges Hugeux qui a eu des responsabilités, je ne retrouve plus exactement ses titres, mais à la banque de New York, qui a commencé une chronique sur le journal Le Monde, chronique d'une crise financière annoncée. Et maintenant, il fait des chroniques où il explique comme ça, il dira que tout le monde, il se dit que tout le monde pourra relire ses chroniques et voir le pourquoi du comment. Emmanuel Perrier.
J'ai un petit peu des réticences à parler avec Bruno Cyr à côté. Juste des éléments, je ne peux, je le fais sous son contrôle et puis c'est lui qui infirmera. Un premier aspect, qui est, j'ai l'impression que cette crise qui vient n'est en fait que le report des conséquences de la précédente. C'est-à-dire que on a eu depuis 10 ans, on n'a pas connu une période d'expansion. Sauf du point de vue des actifs, les actions, l'immobilier, voilà. Mais en revanche, du point de vue des économies réelles, on n'a pas connu une phase d'expansion exceptionnelle. Quand on regarde les 10 années depuis 2008, on a cessé d'avoir, d'abord, on n'a jamais réussi, les banques centrales n'ont jamais réussi à remonter les taux. Les banques centrales ont injecté de la monnaie année après année. Elles ont refinancé un certain nombre de banques qui menaçaient l'équilibre du système. C'est-à-dire, j'ai l'impression que pendant ces 10 ans, on a en fait plutôt gagné du temps en développant encore plus l'endettement et en finançant une croissance un petit peu artificielle pour éviter que la crise financière qu'on avait réussi à échapper, à laquelle on avait réussi à échapper en 2008, échapper, on n'y a pas échappé, mais ce que je veux dire, c'est que à son expansion à l'économie réelle et au fait que ça bloque complètement l'économie mondiale. On avait réussi à échapper ça et on a réussi à maintenir le bateau à flot parce que régulièrement on injectait de la monnaie, on refinançait des banques, on sauvait par-ci, on récupérait par-là, sans jamais arriver à remonter des taux d'intérêt,
sans réforme du système financier.
Alors il y a eu des réformes, mais encore une fois, ce sont des réformes qui sont comment dire, plus des enfin, j'ai l'impression, j'avais je lisais là le le livre de Patrick Artus, Discipline et la finance, bon, dans lequel il fait remarquer que la finance actuelle, rien en dehors même des produits dérivés, c'est 4,5 fois le produit mondial brut. C'est-à-dire que il y a 4,5 fois de plus d'engagement financier que ce que le monde produit. Et il disait, on n'a pas réformé, on a déporté cela sur l'endettement sur les États, et aujourd'hui on se retrouve avec toujours cette masse d'endettement qui court et qui menace la monnaie. Hein, qui menace les monnaies, parce que les monnaies, c'est quelque chose de fragile, ça repose sur le fait qu'on a confiance ou pas. Est-ce qu'on a confiance dans le fait que si je place de l'argent en dollars, par exemple, eh bien, l'économie américaine va continuer à être suffisamment forte et suffisamment dominante sur le monde pour que, d'ici 2-3 ans, elle soit un placement sûr. C'est ça.
Bruno Cyr, même pas une minute.
On
a été long sur les autres sujets.
S'il y a un facteur déclenchant, le facteur déclenchant, ça sera le ralentissement de la production mondiale, parce qu'on est obligé d'avoir une concomitance entre le développement de la monnaie qui permet les échanges, qui n'est pas un bien en soi, que l'on consomme directement, donc qui permet les échanges, et le développement de la production mondiale. Et il faut que l'un et l'autre coïncident. Or, à l'heure actuelle, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis risque de provoquer un ralentissement des échanges mondiaux et donc de la croissance de la production mondiale. Et dans ce cas-là, effectivement, le risque, c'est qu'il y ait trop de monnaie dans le système, trop de monnaie parce que trop d'endettement, qui vont provoquer de l'inflation, et l'augmentation des taux d'inflation vont faire que tous les gens, les États les premiers qui se sont fortement endettés, risquent d'avoir de sacrés problèmes. Donc c'est ça la difficulté. Et comme les économistes anticipent, beaucoup d'économistes, un ralentissement de la production mondiale du fait de la guerre commerciale, et du fait que aussi il y a beaucoup de gens, il y a tout un mouvement de gens qui ne se rendent pas compte que en prônant le commerce de proximité, etc., et en voulant taxer le carbone à outrance, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus pouvoir faire du commerce, parce que si effectivement il faut plus servir des grands pétroliers, il faut plus servir des avions, etc., tout ça va provoquer un ralentissement des échanges mondiaux, et là, c'est un problème financier énorme qui est au-dessus de nos têtes, ça c'est clair.
Eh ben merci beaucoup messieurs, et on reparlera du coup de la crise financière puisqu'elle est pour 2020, comme ça on pourra se préparer à l'automne prochain. Merci beaucoup cette émission, et merci à tous les invités de cette émission Le Grand Débat au long de cette année. Les auditeurs les connaissent et ils apprécient beaucoup cette émission, un grand merci à eux. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.